grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en podcast. Journée spéciale sur France Inter à l'occasion de l'opération Le Plastique Non Merci avec Combini. La planète étouffe sous les milliards de tonnes de plastique accumulées depuis plus d'un demi-siècle. Et comme le relèvent les auteurs de Plastique Planète, nous avons parfois l'impression que le plastique est l'unique matériau adapté à un objet au point qu'il nous devient invisible. Ce matériau léger, pratique, qui nous rend bien des services, est hélas affreusement visible et délétère pour notre environnement. À l'image de ces 80 000 tonnes de matière plastique qui se sont agglomérées au fil du temps en formant une sorte de septième continent en pleine mer entre Hawaï et la Californie. Le plastique qui détient des centaines de substances invisibles et toxiques pour notre santé. Mais comment dire non au plastique alors que les industriels de la chimie savent contourner la législation européenne sur les plastifiants dangereux? Nous verrons quelles sont les initiatives individuelles, collectives et citoyennes pour réduire au maximum l'usage du plastique. Élément de réponse ce matin avec le sociologue Henri Boulier, la consultante en développement durable Aline Gubry et le journaliste spécialiste en environnement Frédéric Danhé. Toutes vos questions sur le plastique au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef à l'hebdomadaire Le 1, vous portez chaque mercredi un regard singulier sur la société. Quoi de neuf cette semaine?
Eh bien on parlera de l'Europe qui, comme le plastique, a un peu tendance à nous décevoir ces derniers temps.
A tout à l'heure Julien Bisson, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Avec nous pour cette journée spéciale consacrée au non au plastique, Henri Boulier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur et vous publiez à la découverte Toxique Lego, comment les firmes chimiques ont mis la main sur le contrôle de leurs produits. Aline Gubry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conférencière, consultante en développement durable et vous êtes l'auteur du blog Consommons autrement et du livre très pratique Zéro plastique, zéro toxique aux éditions Thierry Soucard.
Bonjour. Consommons sainement, le blog.
Consommons sainement, d'accord. Mais c'est consommer autrement aussi.
Exactement. Voilà.
Frédéric Danhé, journaliste spécialiste en environnement, vous préfacez « Nos plastiques sans une idée pour réduire nos déchets » au livre de poche. Alors Frédéric Danhé, rappelons d'abord tout de même que le plastique est une invention assez extraordinaire, léger, résistant, pas cher et qui a bouleversé notre vie quotidienne.
Eh oui, ça on l'oublie, le plastique c'est fantastique, comme disait je sais plus qui il y a très longtemps. C'est pour vous donner l'idée de mon âge, cher Ali. Le plastique, oui, c'est fantastique. Pourquoi? Parce que sans lui, il n'y aurait sans doute pas eu la mondialisation. Pourquoi? Parce que le plastique a remplacé le bois, le verre, le fer dans les emballages. Ça en a considérablement réduit le poids et donc ça a facilité le transport et le stockage de tout matériau, de tous les aliments. Ça a permis de portionner les aliments, ça a permis d'augmenter leur durée de stockage et de conservation dans les magasins. Enfin bref, il n'y aurait jamais eu les 30 Glorieuses sans plastique. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Ce qui était invisible, vous l'avez très bien dit Ali, ce qui est invisible nous revient en pleine figure. Et il y a une statistique dans ce livre anglais, le titre anglais c'est Fuck Plastique. Ce livre dont j'ai fait la préface, qui sort le 9 mois livre de poche. Il y a une statistique qui moi m'a surpris, c'est un tiers du plastique provient d'objets jetés en mer ou abandonnés depuis un bateau. C'est sidérant. Et notamment sur les plages.
Aline Gubry, le plastique, c'est notre meilleur ennemi du quotidien, comme le dit ce matin La Croix. Et c'est vrai qu'une fois abandonné, le plastique pollue en se décomposant pendant des siècles. Et on oublie que ce plastique, il est omniprésent dans notre vie quotidienne, du matin au soir. Et que c'est une substance chimique toxique.
Exactement, c'est que non seulement il va être toxique pour l'environnement, alors certes dans les océans, mais aussi nous, quand on va jeter notre poubelle, ça va être traité soit en incinérateur, soit en décharge. Et puis également, ça va être toxique pour notre santé. Donc réduire son utilisation de plastique au quotidien petit à petit, c'est non seulement réduire ses impacts sur l'environnement, mais aussi protéger sa propre santé de ces substances toxiques au long terme.
Et c'est omniprésent du matin au soir et même la nuit?
Exactement, dans la cuisine, dans la salle de bain, même dans les ingrédients de nos cosmétiques, c'est partout, mais pour autant, on
dans
peut
la chambre
s'en
à coucher.
Passer. Oui, exactement, même dans nos vêtements, nos meubles, partout.
Alors, les plastiques sont des dérivés du pétrole et du gaz naturel. Il s'agit de polymères, c'est-à-dire qu'ils résultent d'une polymérisation. Expliquez-nous.
Alors en fait, ce polymère, c'est un espèce d'agglomérat de molécules identiques qui viennent quasiment systématiquement du pétrole. Or, il va falloir ajouter des additifs, des ingrédients, comme dans un gâteau, pour lui donner de la texture, de la couleur, etc. Donc ça va être les phtalates, les bisphénols, etc. Et en fait, ce qui va être toxique pour la santé dans les plastiques, ce sont ces additifs-là qui peuvent migrer dans notre alimentation, qu'on peut inhaler, qui peuvent pénétrer la peau, etc.
Il existe plus de 180 substances qui entrent dans la composition des plastiques. Et en réalité, le danger du plastique réside, donc vous l'avez dit, dans les produits qui permettent cette polymérisation. Et le problème, c'est que ce plastique a la propriété de se dépolymériser. C'est là le problème.
Ouais, exactement. Quand un plastique va vieillir ou quand il va être chauffé, donc tout ce qui est ustensile de cuisine en plastique, il faut faire très attention parce que ça va libérer ces additifs, ces composants. Donc effectivement, le plastique, c'est absolument pas inerte, à la différence de d'autres matériaux qu'on a pourtant au quotidien, comme le verre, l'inox, etc.
Et puis il ne faut pas oublier la pollution plastique invisible qui se retrouve dans les microplastiques, Frédéric Danhé. Ces microplastiques qui mesurent moins de 5 mm, que l'on retrouve dans l'eau, dans l'air, dans nos assiettes, dans les sols,
qu'on retrouve partout. Le plastique, la facture, on la paye vraiment maintenant. On le voit aujourd'hui. On retrouve encore dans l'atmosphère, dans l'eau, des polluants qu'on a abandonnés il y a 40 ans. On retrouve des radionucléides liés aux explosions nucléaires dans les années 50. Et maintenant, on trouve effectivement des microbilles de plastique, des microparticules de plastique liées à la dégradation, notamment par le nord, qu'on retrouve systématiquement partout, qu'on commence à retrouver dans les parcs ostréicoles en France, ce qui commence à les inquiéter. Je fais juste une incise sur ce que ma voisine de gauche a dit. Moi, ma grand-mère me disait toujours, quand le Tupperware, faut pas citer de marque, mais c'est finalement la seule, commence à changer de couleur, faut le foutre à la poubelle. Alors, bon geste au départ, effectivement, c'est pas inerte, mauvais geste. Tout partait à la poubelle, parce qu'il n'y avait pas de recyclage à l'époque.
Aline Gubry, sur ces microplastiques, qui sont par exemple issus des fibres synthétiques de nos vêtements, en polyester, issus de l'usure des pneus. Dans l'Express de ce matin, le chercheur Johnny Gasperi parle de l'usure des villes qui émet des particules dans l'air, dans l'eau. Et selon ses calculs, 3 à 10 tonnes de matière plastique, de ces microplastiques, retombent chaque année dans l'agglomération parisienne.
Oui, c'est hallucinant. On se rend compte que le plastique n'est pas seulement dans les objets en plastique que nous voyons. Le plastique peut être aussi invisible. C'est également le cas. C'est ça qui est très pervers en fait avec le plastique, c'est que parfois on ne le voit pas. On ne voit pas cette migration des additifs. On ne sait pas. On n'est pas capable de savoir si un plastique va libérer ces substances ou non. C'est pour ça que, principe de précaution, il vaut mieux réduire ces expositions au plastique.
Ou alors ne pas les soumettre à des températures trop élevées, au lave-vaisselle, etc.
En fait, avec le gras, l'acide ou le chaud, effectivement.
Mais il ne faut pas oublier que notre chaîne alimentaire est contaminée par ces microplastiques, qu'on les ingère.
C'est bio-accumulable dans les chaînes alimentaires parce que c'est très très peu dégradable, comme les polluants organiques persistants, genre le DDT qu'on a abandonné dans les années des 70. C'était des pesticides extrêmement efficaces, mais dont les molécules étaient tellement solides que qu'aucun être vivant ne parvenait à les dégrader. Donc ça s'accumulait dans les chaînes alimentaires et on retrouvait jusqu'à des taux extraordinaire dans les baleines de l'Antarctique où, a priori, il n'y avait pas d'émissions de pesticides. C'est pareil avec le plastique.
Henri Boulier, je rappelle que vous publiez Toxique Lego. Selon un rapport de l'Agence européenne des produits chimiques, publié en 2018, 20% des jouets utilisés en Europe contiennent des substances chimiques. Le problème, c'est que contrôler les substances chimiques à l'intérieur de ces plastiques, ça reste une tâche complexe, en dépit des règles contraignantes. Dans ce rapport, l'agence avait testé la présence de 14 molécules interdites dans les objets du quotidien. Les autorités avaient par exemple interdit une substance comme le PCB. Le problème, c'est que ces interdictions sont systématiquement, ou quasiment systématiquement, assorties de dérogations.
Oui, c'est ça. Donc c'est un rapport qui est paru début 2018 et qui montrait que parmi les substances plastiques dont on vient de parler, il y a des phtalates, qui est une grande famille de molécules. Et parmi ces phtalates, en fait, on les retrouve. Ils sont censés être interdits, mais on les retrouve quand même dans des jouets, notamment, auxquels sont exposés les enfants. Et donc ça permet de mettre en lumière l'échec relatif, on pourrait dire, des procédures de contrôle qu'on a mises en place. qui permettent, vous le disiez, systématiquement de générer de la part des, en négociant avec les autorités européennes, parce qu'il y a des dérogations dans le droit, des exceptions qui permettent de maintenir quand même ces produits sur le marché.
Les questions que vous posez dans votre livre sont les suivantes. Pourquoi les États semblent-ils incapables de prononcer des interdictions fermes? Quel rôle jouent les entreprises dans la fabrique des lois censées encadrer leurs activités? Comment la commercialisation de molécules toxiques est-elle devenue légale?
Ouais, c'est ça.
C'est alors, vertigineux comme question. Hein.
C'est assez vertigineux. Alors moi, je suis parti d'un objet un peu moins vertigineux, qui est une réglementation européenne qui a été adoptée au début des années 2000, qui s'appelle REACH, qu'on connaît pas forcément
en
très
français,
bien.
En français, ça veut dire.
C'est un acronyme anglais qui veut dire enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques. Donc c'est un règlement qui était censé être très ambitieux et qui était très ambitieux sur le papier, dans la mesure où il y avait beaucoup de réglementations éparpillées, un vrai millefeuille réglementaire, disait-il à l'époque, qui rendait difficile le contrôle des produits chimiques. Et donc là, c'était avoir un règlement unique qui contrôle les chiffres qui étaient annoncés à l'époque, c'était 30 000 substances chimiques sur le marché. Et finalement, voilà, au fil de négociations longues et difficiles, très politisées, d'études d'impact complètement catastrophistes, d'interventions de chefs d'État, dont Chirac à l'époque, il y a énormément de dérogations qui ont été mises en place. Le système réglementaire est ainsi conçu que la charge de la preuve repose sur l'industrie, donc c'est à l'industrie de produire les données, et avec ça viennent les conséquences qu'on peut peut-être soupçonner, à savoir qu'il y a une grande marge de manœuvre dans la manière de sélectionner les données, faire la preuve de la toxicité.
Mais est-ce qu'il est vraiment possible de dire non au plastique quand on voit comment les entreprises, les industriels arrivent à contourner les règlements européens, Aline Goubry?
Alors oui, l'objectif c'est pas nécessairement de supprimer totalement le plastique, hein, ça ce serait pas possible, voilà, aujourd'hui en tout cas. Mais en tout cas, on peut réduire son utilisation de plastique et surtout réduire en priorité les usages où les plastiques vont être particulièrement dangereux, notamment pour la santé. Et là, je pense particulièrement à tout ce qui est usage alimentaire, comme on l'a dit tout à l'heure, surtout quand les plastiques sont chauffés. Donc oui, c'est possible et même facile de réduire son utilisation de plastique. Et au-delà de ça, on a aussi des avantages personnels, que ce soit sur le plan sanitaire, mais aussi, et ça m'a surprise personnellement quand j'ai commencer à mettre ça en place dans mon quotidien, pour son porte-monnaie. Ça fait faire beaucoup d'économies, parce qu'on va investir dans des objets réutilisables et non pas jetables, parce qu'on va remplacer ses cosmétiques et ses produits ménagers par des ingrédients qui sont à la fois plus écologiques, sans plastique et bon marché, etc. Donc c'est non seulement facile, mais aussi on a des avantages personnels.
Vous n'avez pas l'impression parfois que vos efforts sont un peu vains face au rouleau compresseur de l'industrie qui arrive à contourner les règles?
Alors, on peut être tenté effectivement de le voir comme ça. Moi, je le vois autrement. Quand on va acheter, on va encourager quelque chose et inversement. Et en fait, c'est un pouvoir que chaque consommateur a. Et on voit actuellement que de plus en plus de consommateurs sont désireux de produits, d'une offre plus responsable et notamment avec moins de plastique, et les fabricants sont à l'écoute de la demande de ces consommateurs-là et commencent à changer certaines de leurs pratiques, à proposer des offres plus responsables, etc. Donc on a un pouvoir énorme et ça commence déjà à bouger grâce à ça.
Frédéric Danhuy, sur notre pouvoir énorme face aux lobbies industriels?
Ah bah oui, c'est le pouvoir de la consommation, du moindre achat. Ça, c'est sûr que les industriels écoutent, et les communes aussi. Quand les communes commencent à avoir moins de déchets à recycler, elles se trouvent confrontées aux contrats qui les enferment souvent avec les boîtes de recyclage des déchets, qui les obligent à un certain volume. Et du coup, elles reconsidèrent ensuite ces contrats et deviennent des alliés objectifs des consommateurs auprès des industriels. Mais c'est vraiment là, malheureusement, on est bien obligé de dire qu'il n'y a que le consommateur qui peut faire changer les choses.
Henri Boulier, vous vous semblez un peu dubitatif.
Non, mais je pense que je suis assez d'accord, mais ça oblige à formuler peut-être des conclusions un petit peu navrantes sur l'efficacité de nos systèmes réglementaires. On a quand même, on vit dans un pays où il y a eu beaucoup de crises sanitaires, comme dans d'autres pays, hein, mais il y a eu des crises dans le monde du médicament, il y a eu des crises dans le monde des pesticides, et là on parle des produits chimiques industriels et des agences de sécurité sanitaire qui ont été mises en place. Et là, force est de constater que voilà, les dispositifs réglementaires qui ont été mis en place peinent à réguler des produits qui sont présents dans le quotidien.
Et nous avons, nous autres citoyens consommateurs, un véritable pouvoir face à ces firmes chimiques ?
A priori, à part changer les modes de consommation, c'est vrai que moi j'essaye de, moi je suis, j'analyse mes objets, donc j'essaie de pas être trop normatif, mais effectivement, on peut se poser la question de savoir si le levier vient pas aussi un peu de là, quand on voit l'échec relatif ou l'échec en tout cas de certaines dispositions réglementaires. On parlait des bisphénols, on parle des phtalates, et on voit qu'à chaque fois, si on regarde un petit peu dans le détail, voilà, le bisphénol A, c'est un cas dont on a beaucoup parlé aussi dans le plastique dans les biberons, donc qui a été interdit en France, qui a été interdit à l'échelle européenne. Et puis, en fait, les contenants alimentaires aujourd'hui en France donc, ne contiennent plus de bisphénol A. Mais en revanche, la production de bisphénol A est toujours maintenue. Il y a une décision du Conseil constitutionnel, je crois, qui a annoncé qu'il y avait une interdiction complètement inclusive en 2012, je crois. Et en 2015, la décision a été cassée. Donc, c'est possible d'exporter du bisphénol A. Donc, on continue à contaminer nos voisins, potentiellement. Mm-hmm. Mais on est censé protéger un peu mieux les consommateurs français.
Julien Bisson, Duhan.
Oui, le problème aussi, c'est que, comme vous l'aviez bien expliqué, les déchets plastiques voyagent. C'est pas simplement chez nous. C'est-à-dire pas parce qu'on va réduire cela chez nous que ça ne va pas avoir d'effet ailleurs. Et le problème, c'est que la prise de conscience aujourd'hui n'est pas mondiale et que les grandes entreprises, une grande entreprise, j'ai encore cité une marque, comme Coca-Cola, a aussi déplacé ses activités vers des marchés émergents en Afrique, en Asie, où les réglementations sont loin d'être les mêmes, où la production de bouteilles en plastique est phénoménale aujourd'hui, où il y a beaucoup moins de capacité de collecte, de recyclage, et où donc il y a une production de déchets plastiques absolument incroyables qui vont malheureusement finir un jour sur nos plages.
Mais vous avez raison, il fut un temps où je voyageais beaucoup, 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 et partout je retrouvais les mêmes bouteilles Coca, Fanta, etc., et les mêmes sacs plastiques, jusqu'au cœur du désert. Poussé. En fait, c'est un très très bon moyen, le plastique, de voir où vont les vents, d'où ils partent, et le fonctionnement des courants, comme il y a quelques années, ces mêmes polluants organiques persistants, et comme avant, les radionucléides issus d'explosions nucléaires. Voilà. On a un visage du fonctionnement de la Terre en analysant sa pollution, sauf que là, on ne sait pas quoi en faire. On croule sous les déchets, et on ne sait pas recycler encore, sauf c'est à 25% je crois du volume, on ne sait pas recycler ces composés, parce qu'il faudrait 5, 6, 7 filières pour un seul emballage plastique.
Aline Gubry.
Sur le recyclage, alors certes, le recyclage a des avantages environnementaux, notamment on va faire d'un déchet une ressource. Par contre, attention, la solution la meilleure n'est pas le recyclage, c'est ce qu'on appelle la réduction à la source. C'est-à-dire réduire à la source notre utilisation de plastique. C'est-à-dire ne pas aller totalement vers le 100% recyclage, parce que c'est un processus quand même très énergivore. Notamment pour les déchets plastiques recyclables, ils vont être recyclés à l'autre bout du monde, généralement en Asie, sans parler des hautes températures qu'il va falloir atteindre pour le faire fondre, etc. Donc vraiment, dans l'idéal, en tout cas quand on peut, il vaut mieux privilégier d'autres matériaux plus écologiques, même si un plastique est recyclable.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur le plastique au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Quelles sont vos initiatives pour bannir les matières plastiques et les plastifiants qui nous accompagnent du matin au soir? Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et ses réalisateurs. Par David Le Prince.
Jolie, jeune mariée, lune de miel à peine commencée. Méfiez-vous des voyageurs, voyez Karine Redinger.
Karine Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être. Alors c'est pas bien. Karine Redinger, y a un morceau caché de mon cœur qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis 2 heures. Vous laissiez Karine, le vent montrer aux gens Karine, en douceur. Et vous m'avez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. J'ai une femme à Paris et vous un gentil mari. Cessons la scène musicale comédie. Votre lune de miel au fil de l'eau. Vous veniez le matin très tôt et vive l'amour en bateau. Endormi petit mari sur le Mississippi. Vous étiez quand même un peu gonflé de m'apporter mon café. Oh Karine Redinger, veuillez oublier ce steamer. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Heureusement pas trop longtemps. Ah, ah. Karine Redinger, ne
n'allez pas voir le Sacré-Cœur. Laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville. Un Français, c'est souvent sentimental. Vous laissiez devant montre et vos jambes en douceur. Et vous m'avez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. 10 jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous, c'est fini là. From me to you, from me to you. Karine Redinger, y'a déjà quelqu'un dans mon cœur. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Ce sont la scène musicale, comédie, cette musicale. Ce sont la scène musicale, comédie, cette musicale. Ce sont la scène musicale, comédie.
Joke. Laurent Voulzy, Karine Redinger.
T'as rien contre les couverts en plastique ?
Non, j'aime bien. Ça fait vacances.
Grand bien vous fasse.
Comme je dis toujours, Christophe Colomb a découvert l'Amérique et moi, j'ai découvert en plastique.
Sur France Inter.
10h27, journée spéciale sur France Inter. Le plastique non merci avec Combini. On s'intéresse à cette matière qui empoisonne notre vie quotidienne et notre planète. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Ce test, réalisé en France sur des bouées gonflables. Un laboratoire privé a analysé 27 de ces baudruches en vente sur les plages françaises. La plupart venaient de Chine. Et plus de la moitié d'entre elles avaient des taux de phtalates supérieurs au seuil européen. Pourquoi trouve-t-on toujours des produits toxiques sur le marché français ?
Reportage de France 3 en 2010, toujours d'actualité. Alors j'aimerais que l'on s'attarde sur ce plastifiant omniprésent dans notre vie quotidienne. Ce sont les phtalates, ce sont des perturbateurs endocriniens. Les phtalates que l'on retrouve à l'ingubri, partout, hein, dans les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine,
ouais,
les vêtements, les meubles, les papiers peints, les jouets, les cosmétiques, les parfums.
Oui, le constat n'est pas très glorieux.
Les rideaux de douche.
Ok, stop. Oui, effectivement, ils vont être particulièrement dangereux dans tout ce qui est contact alimentaire. Et là, on peut trouver plein d'alternatives, notamment l'inox et le verre, qui sont des matériaux inertes. Donc, pour tout ce qui est spatule, gourde, thermos, etc.
Mais en attendant, on n'arrive pas à s'en passer.
Ah si, pas complètement, mais on arrive à trouver des alternatives pour une bouilloire en plastique, bouilloire électrique en plastique par exemple. On peut en préférer une dont l'intérieur est en inox ou une bonne casserole en inox par exemple, ça marche très bien aussi. Pareil pour les spatules, c'est bois, métal, etc. C'est quand même facile.
Mais pourquoi on en retrouve dans les parfums, dans les peintures, dans les médicaments? Ça c'est compliqué de se passer. Par quoi on remplace les phtalates là, dans ces cas-là?
Alors, je sais pas, moi je suis pas fabricante, mais en tout cas ce que je peux savoir, c'est que en tant que consommatrice, c'est toujours principe de précaution. Quand je peux, quand ça m'est possible et que ça m'est pas coûteux, ça génère pas de frustration, je choisis une alternative dont je suis sûre qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas ce genre de perturbateurs endocriniens qui soient avérés ou suspectés.
Alors, selon l'Organisation Mondiale de la Santé, les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets délétères sur cet organisme ou sur ses ascendants. Quels sont les effets avérés de ces phtalates, de ces perturbateurs endocriniens sur notre santé? Ce sont des cancérogènes probables ou possibles, Aline Gubry?
Alors notamment, oui, effectivement, en fait, ces perturbateurs endocriniens vont venir déranger, déséquilibrer le fonctionnement normal des hormones et donc des organes. Et donc, il peut y avoir au long terme, potentiellement, une augmentation des risques de cancer des organes en question. Ça peut être aussi des problèmes de fertilité, des problèmes de tumeurs ovariennes chez les femmes. Chez les hommes, il va y avoir une diminution de la qualité et de la quantité des spermes, par exemple. Effectivement, ça peut se passer d'une génération à une autre. Il faut savoir que les fœtus, les bébés et les enfants sont particulièrement sensibles aux effets des perturbateurs endocriniens. Donc, il faut notamment éviter au maximum tout ce qui est vaisselle en plastique pour les bébés et les enfants. C'est quand même le comble que ce soit à eux, en priorité, qu'on donne du plastique.
Frédéric Danhé.
Oui, pour imager, un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui est perçue, qui est reconnue comme une hormone par l'organisme, en particulier une hormone sexuelle, les stéroïdes aussi, et qui du coup va perturber la messagerie cellulaire. Mais attention, le premier perturbateur endocrinien auquel on est confronté, pour les femmes, c'est la pilule. Dans l'alimentation, c'est tout ce qui est à base de soja, hein, c'est ce qu'on appelle les isoflavones, qui sont des hormones végétales. Donc il n'y a pas que le plastique.
Bien sûr,
on vit
évidemment
dans un monde de toute façon de perturbation endocrinienne. Et effectivement, quand cette perturbation, je vais vite, intervient au stade fœtal, ça peut perturber, je dis bien ça peut, mais la probabilité, on ne la connaît pas, ça peut perturber la mise en place effective du sexe.
Alors Henri Boulier, dans votre livre « Toxiques légaux », vous évoquez le cas du DEHP, c'est un phtalate. Ce DEHP, il est interdit depuis 2015, mais plusieurs entreprises continuent à l'utiliser.
Oui, effectivement. Alors c'est un paradoxe des réglementations dont on parlait plus tôt, et en particulier
la réglementation REACH.
Et en particulier REACH, voilà.
Qui prévoit, je le rappelle, d'enregistrer, ouais, d'évaluer, dans certains cas d'interdire les substances chimiques les plus dangereuses pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement.
C'est ça. Alors ça, c'est le projet optimiste. Après, quand on regarde un petit peu mieux, et même pas très loin dans le texte réglementaire, comme dans tous les textes réglementaires européens sur des questions sanitaires, l'objectif, c'est à la fois de protéger la santé et l'environnement, et en même temps de pas trop contrarier l'organisation du marché. Et donc cette seconde invective, elle se manifeste par des dispositifs dérogatoires qui permettent, par exemple, sur un produit comme le DEHP qui a été donc soumis à autorisation en 2015. Donc ça veut dire concrètement que les entreprises qui voudraient continuer à l'utiliser, alors qu'on sait que voilà, il est pas bon, il est boudé de plus en plus de consommateurs, d'associations, etc., peuvent quand même continuer à le mettre sur le marché si elles font des demandes de dérogation.
Prenons l'exemple de l'entreprise Akerma, qui produit des articles en PVC, qui reste l'une des principales sources d'exposition aux phtalates. Comment cette entreprise Akerma a-t-elle pu continuer à utiliser le DEHP?
Alors c'est une entreprise parmi d'autres.
Parmi d'autres, évidemment.
Oui, parmi d'autres. Le processus classique, c'est une entreprise s'adresse à l'Agence européenne des produits chimiques une fois qu'il y a une substance qui est soumise à autorisation et qui fournit un dossier qui est en général très sérieux, hein, très très épais, et qui montre la maîtrise des risques sur leur usage. Donc là, c'est sur la fabrication de plastique, et en l'occurrence, la démonstration du risque, elle porte plutôt sur l'exposition des travailleurs, voir si les travailleurs sont contaminés lors de la production. Et sur un second volet aussi qui est beaucoup plus étonnant, c'est sur les effets économiques d'un refus d'autorisation.
Ça pèse lourd, hein, les arguments socio-économiques face aux autorités politiques et publiques.
Ouais, et dans le cadre de REACH, c'est important parce que effectivement, les arguments socio-économiques sont inscrits dans les procédures de demande d'autorisation. C'est-à-dire que même si dans certains cas des industries maîtrisent pas bien les risques qui sont liés à l'usage de leurs molécules, elles peuvent quand même obtenir un maintien sur le marché si elles parviennent à démontrer que les effets économiques sont importants.
Et quelle est la qualité des données que les industriels de la chimie ou d'autres entreprises soumettent aux autorités?
Alors elles sont variables, c'est ce que montrent les enquêtes. Alors sur ces plastifiants, c'est peut-être un peu moins ambigu. Enfin, la qualité des données est peut-être moins mauvaise dans la mesure où c'est des produits qui sont très documentés. Les bisphénols et les phtalates sont connus depuis longtemps. En revanche, de façon plus générale, le dispositif de renversement qui consiste à renverser la charge de la preuve sur l'industrie fait, je le disais plus tôt, qu'il y a une grande marge de manœuvre, dans la sélection des données, ce qui fait que les études qui vont être soumises et les données qui vont être transmises aux autorités, vont être plutôt celles qui sont les moins inquiétantes.
Question très naïve, que peuvent faire les consommateurs, les citoyens, quand ils savent que ces phtalates sont interdits? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous?
On le disait tout à l'heure, s'en passer, ça serait pas mal. Se méfier, on le disait pendant la pause, se méfier des étiquetages qui disent sans bisphénol ou sans phtalate, peut-être aussi. Sans bisphénol A, par exemple, on en a vu pas mal à un moment, je sais pas si c'est encore le cas, mais il y a d'autres bisphénols qui remplacent le bisphénol A et qui sont pas forcément mieux.
Frédéric Danvé.
Oui, c'est tout le problème de la toxicologie, c'est que souvent, sur pression, mais je me fais l'avocat du diable, sur pression médiatique et sociétale, on élimine un produit chimique dont on connaît parfaitement la toxicologie, on le remplace par un autre qu'on ne connaît pas. Caricaturalement, par exemple, on a remplacé en Europe, en plomberie, les tuyaux en plomb, sous prétexte de saturnisme, effectivement, par des tuyaux en plastique dont on ne maîtrise absolument pas la toxicité. Pour le phtalate, c'est très compliqué, je me fais encore une fois l'avocat du diable pour les industriels, parce que c'est un assouplissant, et c'est un assouplissant des plastiques, est utilisé notamment pour les jouets pour enfants de façon à ce qu'ils ne soient pas cassants, de façon à ce que les enfants ne soient pas blessés. Les remplacer est compliqué parce que ça soumet l'industriel à des tests de sécurité qui coûtent cher, qui sont longs, etc., etc. Alors il me semble qu'il y a deux alternatives qui sont en discussion à base de polypropylène, j'en sais pas plus. En tout cas, c'est pas demain la veille qu'on va les voir disparaître. En fait, c'est un rapport coût-bénéfice. Effectivement, il y a un risque toxique sur le long terme pour les jouets pour enfants, mais il y a aussi un risque de blessure si on élimine immédiatement les phtalates. Alors que faire ? Moi, j'en sais rien du tout.
Aline Gubry.
Choisir d'autres matériaux que le plastique, notamment pour les jouets. Mais effectivement, c'est compliqué. Parce que parfois, même le bois, parfois, contient des peintures qui sont pas idéales. C'est vraiment compliqué. Parfois, il n'y a pas de solution parfaite.
On arrête les jouets.
Ils écoutent la radio et c'est tout.
Alors, le plastique et les plastifiants ne sont pas seulement néfastes pour la santé humaine, c'est également un désastre pour l'environnement. En Europe, nous jetons chaque jour 68 500 tonnes de plastique, dont 8220 en France. Et dès sa fabrication, à Aline Gubry, le plastique pollue.
Oui, effectivement, en fait, ce qui va être nocif pour l'environnement dans le plastique, c'est pas seulement, entre guillemets, les débris plastiques dans les océans. Dès sa fabrication, il va falloir extraire du pétrole, donc là, on va avoir des risques de pollution des sols. Ensuite, il va falloir le transformer en plastique, donc on va utiliser et rejeter des substances chimiques dangereuses. Ensuite, pendant son utilisation, donc on l'a vu, il peut y avoir des rejets de fibres plastiques, notamment pour les vêtements, dans l'eau de lavage. Et ensuite, en tant que déchets, la majorité des déchets que nous, on jette dans notre quotidien, va être triée soit en incinérateur, donc là, on va brûler le plastique, ce qui va créer des fumées très toxiques qu'il va falloir filtrer. Et ces filtres chargés de ces substances-là vont représenter des déchets très dangereux. Et ensuite, ils sont traités, sinon, en décharge ou pendant leur décomposition, vont se former des jus très toxiques qu'on appelle des lixiviats.
Et ces objets en plastique mettent des centaines d'années à se décomposer avec des conséquences désastreuses pour les sols. Vous êtes un spécialiste, Frédéric Danvé, des sols et des nappes phréatiques.
Ah bah évidemment, c'est des produits très très peu biodégradables qui vont encore une fois s'accumuler, se bioaccumuler dans les chaînes alimentaires et dans tous les comportements de l'écosystème. Ce qui veut dire concrètement, sans vouloir déprimer personne, que si demain on arrêtait toute forme de plastique, de toute façon il resterait, on en retrouvera encore pendant 300, 400, 500 ans sur Terre.
Le problème, Aline Gubry, c'est que le plastique est une matière fragile, ce qui réduit la durée de vie des objets qui en contiennent, avec pour conséquence évidemment des déchets qui ne cessent de croître.
Exactement, c'est le serpent qui se mord un peu la queue. Donc le problème est double. C'est pour ça que d'autres matériaux qui sont non seulement plus sains, comme le verre inox, sont aussi plus solides. Par exemple, une casserole en inox va durer littéralement 10, 15, 20 ans sans souci. C'est aussi en ça que c'est aussi plus économique. Non seulement plus écologique, mais aussi plus économique au quotidien. Alors,
vous nous l'avez dit tout à l'heure, Aline Gubry, vous ne croyez pas beaucoup au recyclage pour bon nombre d'objets en plastique. Hein. Et Martine nous demande, je change mes plastiques, mes Tupperware pour des pots en verre, mais je ne sais pas où jeter mes plastiques. Qu'est-ce que j'en fais de mes plastiques ?
Alors, on peut en avoir d'autres usages qui vont être moins dangereux pour la santé, notamment si c'est des boîtes de rangement, ça ne va pas être dangereux pour la santé, à différence de boîtes alimentaires. On peut aussi les donner à des associations qui vont vraiment en avoir besoin. L'objectif, en tout cas, moi, quand j'ai fait ça dans mon quotidien, ça n'a pas été de supprimer tous mes objets plastiques du jour au lendemain. Je l'ai fait pour les usages où ils sont le plus dangereux, c'est-à-dire les usages alimentaires. Par contre, pour le reste, j'ai encore des objets plastiques, les stylos, les ciseaux, etc. C'est impossible à trouver sans plastique et c'est pas grave.
L'argument de bon nombre d'industriels, de la chimie, de l'emballage, c'est de culpabiliser les utilisateurs. Ils ont raison ou pas, Frédéric Danvé, de les culpabiliser ?
Culpabiliser avec quels arguments ?
C'est vous qui êtes responsable de la pollution sur les plages, sur...
C'est pas faux. C'est pas faux. Mais Encore une fois, je me fais aussi l'avocat du diable, je me mets du côté de l'industriel sur le bisphénol A. Les industriels ont eu raison de pointer le fait que les consommateurs ont été contaminés parce qu'ils lavaient leur biberon à l'eau chaude, ils le stérilisaient à l'eau bouillante ou ils le mettaient au lave-vaisselle. Ce qui est une aberration quand on connaît la chimie du plastique. Un plastique, ça se dégrade très très vite aux UV, c'est-à-dire à la lumière, aux produits très corrosifs de la vaisselle, au jus de citron, au micro-ondes et surtout à la température. Il y a aussi une part de responsabilité du consommateur, même si de toute façon on n'est pas responsable de tout. Mais ça, j'insiste là-dessus, un plastique, ça doit rester neutre le plus possible à température ambiante. On doit pas l'abîmer, le dégrader. Dès lors que l'on voit la couleur changer, ça vous dit qu'il faut donner son plastique éventuellement à une association, mais surtout pas.
Ah, ça dépend s'il est neuf.
Vraiment s'il est neuf.
Aline Dubré sur la culpabilisation des consommateurs.
Culpabilisation non. Après oui, on a une marge de manœuvre en tant que consommateur, mais attention, si parfois on n'a pas une offre plus responsable la part des fabricants, on ne pourra rien faire de plus.
C'est vrai que le consommateur n'a rien demandé. Par exemple, sur les bouteilles de Coca ou de Pepsi, il n'a pas demandé à avoir des bouteilles en plastique. Pendant longtemps, il y avait des bouteilles en verre qu'on consignait dans les épiceries, les supermarchés.
Oui, pratique justement.
Et oui, en fait, je suis d'accord.
On est tous comme ça. Ça nous évite, c'est moins lourd. Ça nous évite d'aller au magasin pour la consigne. On est dans une civilisation du moindre effort, et le plastique permet ce moindre effort.
Allez, Julien Bisson, c'est votre heure. Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le Hans. Tous les mercredis, votre journal jette un regard singulier sur nos sociétés. Vous vous intéressez à notre continent, l'Europe, en crise totale, à 2 mois d'un scrutin qui pourrait être historique.
Oui, historique, mon cher Ali, mais pas forcément dans le bon sens, tant les alertes nous arrivent chaque jour sur l'ascension des populistes de tout poil à travers le continent. En fait, l'Europe, c'est un peu comme le plastique. Pendant longtemps, on a trouvé ça moderne, brillant, prometteur. C'était comme une sorte de porte d'entrée vers l'avenir. On pouvait dire de l'Europe comme le plastique, tiens, c'est fantastique. Mais aujourd'hui, le plastique, lui, peuple nos océans et l'Europe, elle, a déserté nos cœurs. L'Europe, c'est une profonde déception, soupire Régis Debray qui nous a accordé un long entretien dans ce numéro. Une déception, dit-il, parce que malgré notre désir d'Europe, celle-ci ne ressemble en rien à ce que l'on souhaite. Nous sommes en mal d'Europe et l'Europe nous fait mal. Pour fonder une puissance, une politique, poursuit-il, il faut un imaginaire commun. Or, nous n'en avons aucun. Notre imaginaire à nous, c'est Netflix, c'est Hollywood. Cette Europe qui refuse tout passé ne peut pas avoir d'avenir. Et notre philosophe national de comparer le dollar chargé de sens et d'histoire avec ce qu'il appelle notre billet de Monopoly qu'on traîne dans nos poches. Vous n'y trouverez ni transcendance, ni histoire, ni géographie. Il y a des symboles abstraits, pas de nom, pas de portrait, ni de devise. Un billet idéal pour une non-personne hors sol et sans mémoire.
Alors est-ce que ça signifie que l'Europe est un échec complet ?
Non. Pas forcément. D'abord parce que l'Europe, c'est le lieu de tous les paradoxes. L'euroscepticisme est aujourd'hui l'opinion la mieux partagée, la critique de Bruxelles, une figure presque imposée. Et pourtant, plus personne ne songe à quitter l'Union comme ces fous d'anglais. L'Europe, on n'y échappe pas, ou en tout cas, on n'y échappe plus. Après, reste encore à la définir. L'Union n'a pas d'imaginaire, mais elle a une géographie, elle a une histoire. Une histoire qui s'écrit au présent, puisque plus personne ne songe à lui dire adieu. Une histoire qui s'écrit surtout avec ses jeunes générations, qui partagent parfois les mêmes doutes que leurs aînés. C'est Caroline Gillet, cette journaliste bien connue des ondes de France Inter, qui nous les raconte. Elle qui rencontre ces jeunes si souvent pour son émission Full Continental. Elle a rencontré Claire, par exemple, qui nous dit « Une espèce de phénomène se produit quand on prononce le mot Europe. Une léthargie qui s'empare de moi. » Je sais pas si ça tient au fait qu'on nous a parlé en primaire dans des contextes hyper chiants. Pour moi, l'Europe, c'est associé à la semaine européenne à la cantine, où tu avais une pauvre tortilla dégueulasse de Sodexo qu'un cure-dent et un drapeau de l'Espagne. C'est peut-être à cette étape-là de notre vie que s'est instillé un ennui profond pour la question européenne. Mais pour d'autres, qui ont connu Erasmus par exemple, l'Europe est celle des rencontres, des vies mélangées, des identités multiples. Ils n'ont connu que la monnaie unique, parlent à leur famille dans une langue, travaillent dans une autre, couchent dans une troisième. L'Europe de la paix, pour eux, c'est le continent de la liberté, la possibilité d'une culture commune. À condition bien sûr que l'Union ne se résume pas à un ensemble d'institutions artificielles, aussi froide et séduisante que notre vieux plastoc.
Vous me faites penser, là, Julien Bisson, avec votre chronique, à ce bon vieux billet Interrail qui permettait de faire le tour de l'Europe quand nous étions jeunes.
Hein, quand nous étions jeunes,
hélas le cas.
C'est à bien longtemps.
Et merci beaucoup, Julien Bisson. L'Europe peut-elle repartir ? C'est le thème à la une de l'hebdomadaire Le 1, à découvrir en kiosque et en librairie. Allez, on continue à s'intéresser aux matières plastiques, aux plastifiants qui empoisonnent notre quotidien. Dans quelques instants, rappel de quelques idées pour réduire nos déchets plastiques. 01 45 24 7000.
I'm over this. Cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gingerfy the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me.
What about the love? Coming with me. What about the neighbors? Coming with me. What about the sea? It's coming with me. The people that you came with? Coming with me. What about the love? Coming with me. What about the neighbors? Coming with me. What about the sea? Coming with me. People that you came with? You're coming with me.
Took a knee, them crackers took me out the league. Now I'm not much for games, but I play for keeps. And we salute King James for using his chains to create some equal opportunities. Cold stairs can never put the fear in me. There's a movement we've been grooving on. You can move or stay your ass asleep. Let's just not talk about it. Everything they tried to hide, we're taking back for yours and mine.
Anderson .Paak interprété King James.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47, journée spéciale sur France Inter, le plastique non merci avec Combini. Racontez-nous ce matin vos initiatives pour dire non au plastique. Alors nous avions consacré une émission le 9 janvier dernier, comment se passer de plastique en 2019, et on enfonce le clou ce matin avec vous Mélinda. Bienvenue, vous appelez de Chambéry.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci de me donner la parole.
Alors, quelles sont vos astuces et idées pour éviter le plastique dans votre quotidien?
Alors, je dirais qu'il y en a plein. Alors, sachant que j'ai deux enfants assez jeunes, j'ai commencé à combattre, entre guillemets, le plastique assez tôt, avec les pots bébés, par exemple, pour éviter tous les conditionnements en plastique et pour éviter aussi les boîtes de conservation. J'ai privilégié les boîtes en verre, qui ont certes souvent un couvercle en plastique, mais c'est quand même plus solide, c'est facile, c'est plus hygiénique. Le plastique, à contrario, il se raye, donc ça peut aussi conserver les germes. Enfin, voilà. Alors que le verre, c'est plus facile à nettoyer. Je les ai habitués assez tôt à utiliser des couverts en inox. Bien sûr, ils mangeaient sous surveillance d'un adulte, mais voilà, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de problèmes graves comme on redoute souvent. Ils utilisaient également des assiettes en céramique ou bien en verre, des verres pour boire. En verre ou en porcelaine. Par exemple, un exemple assez idiot finalement, assez banal, c'est chez le fleuriste, je refusais l'emballage plastique qu'on mettait autour du bouquet de fleurs et ça m'amusait de voir le regard interloqué du vendeur, alors que bon, ça me semblait naturel puisque c'est un bout de plastique qu'on jette au bout de 5-10 minutes, un quart d'heure. Enfin voilà, il ne sert pas à grand chose si ce n'est que protéger un tout petit peu les fleurs, mais le papier le fait très bien aussi. Ou tout simplement, ils peuvent ne pas l'emballer. On utilise également des pailles en inox, qui est un investissement somme toute pas très important, vu la durée d'utilisation de ces pailles en inox qu'on peut laver. En plus, c'est super, c'est livré avec une petite brosse, on peut les nettoyer. Enfin, je veux dire, je ne manque pas d'exemples, vous m'arrêterez. Hein, parce
mais
que Mélinda,
vous désintoxiquez du plastique, mais ça vous a conduit à vous remettre en question en profondeur. Remettre en question votre mode de consommation, vous avez beaucoup réfléchi avant, et puis c'est un questionnement permanent. C'est pas anodin de dire non au plastique, d'abandonner cette matière qui nous rend bien des services.
Oui, tout à fait. Mais en fait, je pense que d'abord, il y a une espèce de... Enfin, on est poussé à la consommation, ça, tout le monde le sait. Bon, voilà, c'est l'effet de société. Par contre, c'est vrai que... Enfin, j'ai envie de dire, on le fait sans réfléchir. Et peut-être le moment charnière pour moi, ça a été la naissance de mes enfants, où je me suis dit effectivement tout ce plastique, le bisphénol, tout le reste est bien sain. Et puis il y a aussi l'effet du gaspillage, c'est-à-dire quand on se balade dans un parc et on constate qu'il y a des emballages un petit peu partout, on se dit mais enfin c'est quand même pas normal de rencontrer tout ça. Alors le détox du plastique, c'est pas évident. Oui. Mais je pense que beaucoup de gens pensent que c'est un effort bien plus important qu'il ne l'est en réalité. En fait, on peut apprendre à regarder quels sont les magasins qui vendent du vrac, quels sont, la maison où on conserve dans des bocaux parfaits en verre qui sont très bien, enfin.
Oui. Mélina, restez avec nous. Il y a Jérémy Pichon avec nous. Bonjour. Vous êtes l'auteur du blog Famille Zéro Déchet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous habitez dans les Landes, au bord de l'océan, et de voir le plastique sur les plages a provoqué un véritable déclic. Vous êtes lancé, à partir de là, dans l'entreprise titanesque du zéro déchet plastique.
Oui, moi, j'ai passé 20 ans dans les ONG environnementales, dans différents milieux, montagnes, rivières, plages, à ramasser des plastiques dans l'écosystème et à constater l'impact que ça peut avoir. Ce qui est important de rappeler aux auditeurs, c'est que c'est un fléau aujourd'hui. On en ramasse évidemment à la plage, mais on a disséminé énormément de plastique. Ce sont 200 kilos de plastique qui arrivent chaque seconde dans les océans. Et on estime que d'ici 2050, c'est-à-dire 30 ans, hein, c'est demain, on va avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. C'est un fléau, et ce plastique-là n'est pas neutre. Hein. Il est chargé en perturbateurs endocriniens, comme le bisphénol, les phtalates, et vont rentrer dans la chaîne alimentaire en profondeur, à une échelle qui sont des microplastiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir la rattraper, cette échelle-là. On est en train de scier la branche de notre écosystème sur laquelle on est assise et avec laquelle on doit vivre en dissimulant du plastique à une échelle qui est, on parle de millions et de millions de tonnes. Hein, je crois que c'est pas une lubie d'écolo, hein, sortir du plastique, c'est aujourd'hui une nécessité vitale pour protéger l'écosystème et le plancton en premier lieu qui dans les océans nous donne à respirer. Quand même.
Jérémy Pichon, comment ça se traduit votre zéro déchet au quotidien, en famille? Expliquez-nous un petit peu. À quoi ressemble votre vie quotidienne?
Mais c'est intéressant ce qu'a dit notre auditrice juste avant, c'est-à-dire qu'elle a dit « je refuse ». Et effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une démarche citoyenne et engagée, de dire au départ, la première solution, ça va être de refuser, hein, ça va être de réduire sa consommation de plastique. Vous avez dit, ça nous rend beaucoup de besoins, les plastiques, hein, et ça nous rend beaucoup de services, pardon, c'est vous qui l'avez dit. Effectivement, ça nous rend beaucoup de services, mais il y a beaucoup de plastiques qui sont aujourd'hui inutiles. On est dans une logique de surconsommation et de gaspillage, et le premier vecteur aujourd'hui, c'est l'agroalimentaire. Un tiers de notre poubelle aujourd'hui, c'est du plastique lié aux emballages, dont on peut très bien aujourd'hui se passer en sortant de la grande distribution, en allant vers des circuits courts, vers du marché, vers des concepts commerçants locaux, avec nos bocaux. C'est ça le zéro déchet, c'est comme ça qu'on s'est engagé nous en 2014, quand on s'est lancé dans l'aventure, c'est de dire, ok, on va sortir de cette poubelle-là en refusant et en réduisant notre consommation, et ça marche, parce qu'on habite en France, et on a beaucoup de solutions, à commencer par l'alimentation, il faut d'abord le décider en famille, individuellement, et c'est possible.
Aline Gubry, Frédéric Danhé, je vous ai demandé des mesures concrète à prendre dès aujourd'hui pour s'alléger en plastique. Aline Gubry, je pense que ça va aller dans le sens de Mélinda et de Jérémy Pichon.
Oui, tout à fait. Alors, premièrement, on peut éviter les fruits et légumes pré-emballés, pré-découpés. En tout cas, quand c'est possible. Parfois, c'est pas possible, notamment dans les supermarchés, les fruits et légumes certifiés biologiques sont assez paradoxalement c'est toujours bizarre, emballés. Ce qui est effectivement paradoxal. Après, pareil, quand on peut acheter en vrac. Quand on a un magasin qui propose du vrac près de chez soi, c'est souvent les aliments secs, hein, comme le riz, la semoule, etc. Comme le disait Jérémy Pichon, on peut préférer le marché, les petits commerçants, où les aliments vont être très peu, voire pas du tout emballés. Pour le côté sanitaire, comme on disait tout à l'heure, on peut préférer des emballages en verre plutôt qu'en plastique, notamment pour tout ce qui est aliments soit gras, comme les huiles en bouteille plastique, par exemple, ou acides, parce que c'est dans ces cas-là que les risques de migration vont être particulièrement élevés. Ensuite, on peut essayer d'arrêter d'acheter des ustensiles de cuisine en plastique et les remplacer petit à petit par du verre, de l'inox, du bois. Pour éviter les bouteilles d'eau, certes recyclables, on peut préférer l'eau du robinet et si on veut, on peut la filtrer. Il faut savoir que l'eau minérale n'est pas aussi saine qu'on le pense, notamment parce qu'elle est en contact prolongé avec des plastiques. Donc il y a des risques de migration. On peut également, pour les aliments qu'on ne peut pas trouver sans emballage, hein, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, on peut les préférer en grands contenants. Vous savez, les contenants familiaux, comme les yaourts, le riz, même les shampoings liquides, etc. Ça fait moins d'emballage en proportion du contenu. Pareil, on peut remplacer petit à petit ces objets à usage unique, qu'ils soient en plastique ou non d'ailleurs, comme les rasoirs, les gobelets, enfin ils sont partout.
Question
dans notre quotidien.
Question concrète d'Aude qui nous dit bah, je cherche des alternatives aux films alimentaires plastiques qui auraient les mêmes propriétés.
Alors si c'est pour couvrir un plat, on peut couvrir tout simplement avec une assiette ou même avec un chapeau en tissu qui existe maintenant, élastique, hein, à mettre directement sur le bol ou le saladier. Et puis il y a même pour aller plus loin, pour envelopper un sandwich par exemple, il existe des sachets en tissu imperméable qu'on peut emballer pour les snacks, etc.
Frédéric Danhé, vos conseils, vos idées ?
Oui, je rajoute une chose. Allez chez les petits commerçants, achetez en vrac avec vos propres sacs plastiques que vous réutilisez. Si vous allez sur le maraîcher un jour, il vous donne un sac plastique, vous le réutilisez, vous le lui ramenez le dimanche d'après. Non, juste les produits d'entretien, on peut les faire soi-même. Moi, je le fais. L'eau minérale, effectivement, il faut la fuir presque comme la peste. Et puis même les produits voilà, le shampoing, le savon, etc. Le savon, bah, pourquoi ne pas acheter du savon ? Pourquoi acheter du gel douche ? On évite le plastique. Il existe même des shampoings solides qui fonctionnent très bien à foie d'ex-baroudeur.
Sur cette thématique des cosmétiques, toujours aller au plus simple. Hein. Ça, c'est mon conseil le plus important. Par exemple, on n'est pas obligé de fabriquer son stick à lèvres soi-même. On peut tout simplement le remplacer par un ingrédient qui est du beurre de karité.
Merci beaucoup à Mélinda et Jérémy Pichon. Henri Boulier, en quelques mots, les actions que les citoyens peuvent mener pour obliger les autorités politiques à prendre des réformes pour que les firmes chimiques n'aient plus la main sur le contrôle des substances toxiques plastiques.
Alors, en un mot, c'est pas évident, mais en tout cas, se poser la question de savoir si, comme c'est le cas actuellement, la diminution des moyens des agences de sécurité sanitaire est une bonne chose dans un contexte où on voit que les asymétries entre industriels et pouvoir public n'ont jamais été aussi importantes.
Merci à tous. La journée spéciale Le Plastique Non Merci se poursuit à 13h avec Bruno Duvic et à 13h30 avec Jean Lebrun qui consacre sa marche de l'histoire à l'histoire des déchets. Merci à Aline Gubry. Zéro plastique, zéro toxique. Bah, je vous le recommande, c'est très pratique. C'est chez Thierry Soucard Édition. Frédéric Doré, l'ouvrage que vous avez préfacé, ça sort quand ? Ça s'appelle
le
comment ?
Le 9 mai, Nos Plastiques, sans un conseil et je sais plus.
C'est très bien. Demain avec l'Obs, et merci beaucoup Henri Boulier, je recommande vraiment Toxique Lego, c'est publié à la découverte. Demain avec l'Obs, on se demande s'il faut en finir avec le genre. Toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. La technique ce matin, Maxime Ingrand et Elisabeth Collet.